Quelqu'un qui est également très intéressant, c'est mon prochain invité. On a parlé de baseball en masse dans les trois dernières semaines et on va continuer pour une dernière fois aujourd'hui. Et c'est Serge Touchette. Comment ça va, Serge?
Ça va bien, mon Pat, et toi?
Ben, ça va très, très bien. Puis bon, je sais pas si tu as compris, Greg Lanto va interviewer Youpi tantôt. Pour parler de la fois qu'il s'est fait mettre dehors par Tommy Lasorda. T'étais là à ce match-là de 22 manches, Serge.
Ah, ben, que j'étais là. C'était un petit peu long, ça. En tout cas, moi, je m'en souviens, ça avait fini très tard. Ça s'était terminé, je pense, 1-0.
Oui, exact.
Mais ça donc, je me suis. Ben, bon, évidemment, le Youpi qui est expulsé du match parce que il sautait sous l'abri des Dodgers. C'est vrai que ça faisait un vacarme épouvantable. Quand ça se mettait 7-8 manches, je l'avais des oreilles, ça se trouvait être certains joueurs tatanés. Mais moi, je me souviens de ça, bien sûr, mais après ça.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Les expos quittaient aussitôt après le match pour se rendre à Saint-Louis. Là, le match avait fini, je me souviens pas à quelle heure. Je sais pas si c'était à 1h30 du matin ou 2h.
Près de 2h du matin, Serge.
Bon, ben, c'est ça. Là, on prenait l'autobus pour s'en aller à Dorval. Et on arrive là, mon vieux, il y a un problème avec l'avion.
OK.
Pour ajouter à la soirée déjà.
Ben oui.
Et finalement, si je me souviens bien, écoute, c'est pas hier, ça, on était parti à 6 ou 7 heures le matin. En direct de ça. Puis on s'était rendu à Saint-Louis, les gars, t'es arrivé là, moitié mort, personne n'avait dormi, on a passé la nuit à l'aéroport. Et puis le soir même, les expos jouaient contre les Cards de Saint-Louis, évidemment. Je peux te dire que je me souviens même pas du match, tellement je t'ai endormi. On m'a pas dormi de la journée. Ça a été une des plus longues journées de l'année, ben en fait, de l'histoire des expos. Je n'oublierai jamais ça. Je peux te dire une chose. On avait hâte que la journée du lendemain se termine. Parce que ça avait été vraiment une très, très, très longue journée.
Hey boy, non, ça a été un match, moi, qui m'avait marqué, un match de 22 manches. Je me rappelle, je pense que c'est Camille Dubé qui avait dit... Camille Dubé ou peut-être... non, c'était Camille Dubé qui était au commentaire ou qui était à l'analyse à ce moment-là avec Claude Raymond, puis qui avait dit, à la description plutôt avec Claude Raymond, puis qui avait dit au début de la 9-18, au début de la 19e manche, bienvenue dans ce troisième match entre les Dodgers et les Expos. Parce qu'on venait de faire deux nos manches. Non, ça l'a marqué les gens qui l'ont écouté ou qui étaient présents. Là, on va faire le tour de l'actualité, Serge, une dernière fois ensemble. Et bon, on parle beaucoup de Shohei Ohtani dans la Ligue nationale, qui devrait d'ailleurs, là, peut-être ce soir ou sinon ce week-end, se qualifier officiellement dans le club des 40-40.
Ouais.
Mais la carte cachée peut-être du côté de la nationale, qu'on parle presque pas, c'est Marcel Ozuna.
Ouais, ça en prend toujours un Marcel pour mêler les cartes. Écoute...
Un joueur de 500, mon Serge, ou...
peu importe, il est capable de les brasser. Et il va dire une chose, c'est assez incroyable. C'est un des secrets des mieux gardés du baseball cette année, Marcel Ozuna. Bon, comme tu l'as mentionné, Ohtani est le candidat logique pour le titre de MVP dans la Ligue nationale. Mais là, un instant, Marcel, notre beau Marcel, mène la Ligue nationale pour la moyenne au bâton. Il mène la Ligue pour les points produits et il accuse seulement 2 circuits de retard sur Shohei Ohtani. Ça veut dire que si Marcel, notre beau Marcel, remporte la triple couronne, je ne peux pas voter pour Ohtani, là.
Mais je l'attends avec toi.
Par excellence, là. Je regrette celui-ci. Ozuna remporte la triple couronne, qui est un exploit rare, surtout dans la Ligue nationale. Ça, on l'a eu dans la Ligue américaine, il y en a eu, Miguel Cabrera, c'est le dernier, Carl Yastrzemski, Frank Robinson, Mickey Mantle. Il y en a beaucoup dans la Ligue, ben pas beaucoup, quelques-uns dans la Ligue américaine qui l'ont gagné. Mais dans la Ligue nationale, le dernier joueur à avoir gagné la triple couronne, c'est un certain Joe Medwick, écoute, en 1937. C'est pas d'hier, Marcel, t'as pas au monde.
Il est connu de sa mère, là, lui. Là.
Ben, c'était un bon joueur, c'était un grand joueur à l'époque. Tu sais, je veux dire, j'ai lu des trucs sur lui. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que ce serait tout un exploit qui passe quasiment inaperçu, tellement Otani prend toute la place dans la Ligue nationale. Sauf que là, il reste encore quoi, un peu plus de 5 semaines de baseball et c'est encore possible de voir Ozuna remporter la triple couronne dans le silence le plus total, mon vieux.
Ben oui. Avec les Braves en plus, hein, les Braves qui ont, on a parlé cette semaine, là, qui ont eu plusieurs, blessés. Là.
Exactement. C'est l'équipe qui a été le plus éprouvée au plan des blessures, probablement dans le baseball cette année. Malgré tout ça, ils vont participer aux séries, en tout cas, je pense bien. Mais une des grandes raisons à ça, c'est justement Marcel Ozuna, parce que lui, s'il n'y a pas cette saison extraordinaire, je suis pas sûr que les Braves sont encore dans la course pour une place aux séries.
Je fais un clin d'œil à ceux qui font certains paris sportifs, Serge. En ce moment, sur Bet99, la cote pour le joueur le plus utile dans la nationale, Shohei Ohtani, est à 1,07. Ouais. Francisco Lindor, du côté des Mets, est à 9. Ouais. Et Marcel Ozuna est à 28 pour 1.
Hey boy,
c'est peut-être le temps de
Ben, il y en a qui sont pas au courant, qui pourraient gagner à triple couronne.
Ben, écoute,
honnêtement, il faut être juste quelque part. Francisco Lindor connaît depuis 2 mois et demi, c'est un des meilleurs joueurs dans la Ligue, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais si tu regardes les chiffres de Marcel, écoute, c'est plus impressionnant que ceux de Lindor.
Ben, j'ai hâte que l'émission finisse. Je vais peut-être ouvrir mon application de Bet99.
Regarde ça, mon père. <comme faut. rire>
Hey, dans l'américaine, Serge, Aaron oui. Judge, le juge, qui, encore une saison, potentiellement, où il va frapper 60 circuits.
Ah oui, il vient d'en frapper 13 dans ses 24 derniers matchs. Ça n'a pas de mot du bon.
Aucun sens.
Je le regarde, là, puis à chaque fois, je suis pas le seul. Ses coéquipiers sont au tapis, mon vieux. Ils n'en viennent pas. Personne n'en vient. J'ai rarement vu ça. Puis, en plus, il frappe pour 334. Mm-hmm. La deuxième moyenne la plus élevée dans la Ligue américaine derrière Bobby Witt. Mais c'est assez rare qu'un gars qui frappe au-delà de 50 circuits, il va m'en frapper peut-être 60, et qui, en même temps, conserve une moyenne de 300. Je me souviens que Barry Bonds, quand il en avait frappé 73, qui est le record, avait frappé à peu près pour 325. Mais Judge, il fait mieux encore. Écoute, 334, ça n'a pas de maudit bon sens. Ça veut dire à quel point il est discipliné. Il ne s'en lance vraiment pas sur n'importe quoi. Il est comme... écoute, moi, faut que tu remontes aux grosses années de Barry Bonds pour retrouver un frappeur de circuit comparable à Bonds. C'est vraiment ça. C'est tout un compliment parce que Bonds, à l'époque, c'était absolument fabuleux de le voir frapper à longue balle.
Et pas juste ça, ben, ça veut dire que lui aussi a un potentiel de remporter la triple couronne dans l'américaine?
Oui, c'est un candidat. Il n'y a pas de doute là-dessus. Puis, si tu crois, il est bien capable. Et il faut le mentionner, il est clean.
Oh.
Il prend rien, lui. Il n'y a pas de potion magique dans ses cornflakes. Fait que, tu sais, double mérite, parce qu'on le sait, parmi ceux qui ont eu des grosses saisons au chapitre des circuits, là, je pense à Mark McGuire, je pense à Sammy Sosa, à Barry Bonds, qui ont triché à tour de bras. Ben, Judge, lui, il fait ça, écoute, comme un grand garçon. Et puis, il obtient des résultats absolument exceptionnels.
Mais Serge, j'ai affronté aussi des lanceurs qui mettaient des potes, qui avaient un peu de potion magique dans leur céréale aussi à l'époque.
Oui, mais encore une fois,
il
faut prétendre que tous les joueurs prenaient des stéroïdes.
C'est sûr.
Il faut faire attention. Il y en a. Et c'est ça que, pour ça que j'aime pas ça quand les gens disent ça, parce que ils donnent pas crédit à ceux qui en prenaient pas. Il y en a plus qui en prenaient pas qu'ils en prenaient. Fait que, tu sais, je trouve pas ça carré, parce qu'il y en a qui ont eu des bonnes saisons sans tricher. Puis il faut le mentionner aussi.
En tout cas, tout ce que je sais, Serge, c'est que moi, donne-moi de la potion magique, puis j'en mets pas plus 60 de l'autre côté de la clôture.
Ça,
c'est un fait. Mais oui, je suis pas en train d'endosser la tricherie, mais à l'époque, c'était quand même monnaie courante de part et d'autre. Ben oui, absolument. C'était un fléau à l'époque. Garrett Cole, si on continue avec les Yankees, qui a obtenu, Serge, sa 150e victoire. Et 150 victoires en ce moment dans le baseball majeur, c'est le quatrième lanceur actif avec le plus de victoires. Le meneur à chapitre, Justin Verlander avec 260. Justin Verlander qui est rendu à 40 ou 41 ans. Ouais. Des 300 victoires dans le baseball majeur, je parle même pas du record de Cy Young à 511, là, mais 300 victoires, là, on va-tu revoir ça un jour?
Ben, moi j'ai des doutes. Tu vas voir ça de moins en moins. Je veux dire, à cause de la philosophie aujourd'hui, tu sais, des partants, c'est comme moi, ça mange, le relais va s'occuper du reste. C'est un peu ça ce qui se passe partout dans le baseball majeur. Des lanceurs partants qui complètent des matchs, t'en as plus. Écoute, moi je me souviens d'une époque où le meneur pour les matchs complets dans le baseball en avait 25 et 30. Aujourd'hui, t'as pas 10 lanceurs qui complètent 5 matchs. Mm-hmm. C'est tellement différent. Évidemment, on met l'accent sur des releveurs. On a un partant, 3 releveurs. Si ton partant te donne 6 manches, c'est quasiment un boni. Puis autre facteur aussi, c'est que les partants commencent moins de matchs. Ils commencent à peu près 31-32 matchs par année, alors qu'à une certaine époque, ils en commençaient 38-40. Fait qu'évidemment que tes chances, les chances d'un lanceur, aussi doué soit-il, d'atteindre 300 victoires, ont considérablement diminué depuis quelques années à cause de cette philosophie-là. En fait, c'est un travail à la chaîne aujourd'hui, c'est pas compliqué, là.
Mais c'est-tu juste une mode, Serge, ou ça risque de revenir, non?
Je pense pas, parce que je pense que c'est la tendance actuelle pour plusieurs raisons. C'est qu'on, je pense que les équipes veulent protéger leurs lanceurs. Si tu regardes le nombre d'opérations Tommy John qui ont été qui a eu au cours des, je sais pas, moins 20 dernières années, là, c'est hallucinant, là, le nombre de gars qui ont subi de l'opération Tommy John. Fait que là, ce que les équipes font, c'est des gros investissements. On essaie de protéger les lanceurs contre eux-mêmes, finalement, en limitant leur nombre de lancers par sortie, leur nombre de manches et leur nombre de départs. Fait qu'on espère de cette façon-là prolonger leur carrière le plus longtemps possible.
Il y en a un, Serge, un lanceur cette année dans la Nationale qui, lui, ben quand même, on lui laisse. Je pense qu'on a changé un peu de philosophie pour lui là dans les derniers moments. Parce que lui, il aimerait ça lancer davantage d'ici la fin de la saison. Je parle de la recrue des Pirates, Paul Skeens. Une autre victoire, un autre gros départ hier, sa 8e victoire, 9 retraits au bâton, 2 coups sûrs, aucun point en 6 manches. Ouais. C'est un phénomène, là, Paul Skeens.
Alors, c'est un phénomène. 130 retraits au bâton en seulement 104 manches. Mais il n'y a pas si longtemps, les Pirates étaient un petit peu inquiets parce que sa vélocité était à la baisse.
Ouais, c'est ça.
Ça, c'en est un, il faut que tu surveilles de proche, là. Parce qu'il lance fort pas à peu près. Tu sais, les Pirates, ils ont même songé à mettre un terme à sa saison parce qu'il y en a qui avaient des inquiétudes. Ils ont dit, si sa vélocité est à la baisse, il y a peut-être un mal de bras ou il en parle pas, son bras est peut-être fatigué, mais il y a des gens chez les Pirates qui commençaient à être inquiets. Écoute, ce gars-là, là, c'est une mine d'or là, pour les Pirates. Fait que c'est pour ça que je disais tantôt, les équipes essaient de protéger leurs jeunes lanceurs et Paul Skeens. Écoute, moi, je serais le gars le moins surpris au monde si dans 2 ans, peut-être même avant, il succède à son tour et l'opération Tommy John.
Oui, on l'avait vu. Tous les lanceurs de puissance passent par là. On dirait Steven Strasburg.
Ben, c'est inévitable.
Kerry Wood, Steven Strasburg. Ah, oui. C'est pour nommer quelques exemples de lanceurs qui, à leur année recrue ou dans leurs premières années, cassaient tout. On se rappelle Kerry Wood, 20 retraits au bâton dans un même match, qui finalement ont eu une opération. Puis bon, Strasburg est revenu quand même pas si pire.
Il est revenu, mais ça n'a pas duré longtemps.
Non,
sa carrière a été courtée.
Wood non plus.
Bon,
là. Wood non plus. Je ne sais pas s'il va rapporter le Cy Young, Paul Skeens. Il y en a peut-être d'autres meilleurs que lui cette année, mais le titre de recrue de l'année dans la Nationale, ça, il y a des meilleures chances, Serge.
Ben, je pense que oui, je pense que c'est le candidat logique. Mais il y a un gars à San Diego qui impressionne, c'est Jackson Merrill, un voiture.
Ouais.
Il fait pour 2,89. Il a 17 coups de circuit, 69 points produits. Il a juste 21 ans. C'est un joueur impressionnant. Mais c'était pas de Skeens, c'est lui qui serait le candidat numéro 1. C'est dire à quel point Skeens est impressionnant. Écoute, c'est en train de devenir un phénomène dans la Ligue nationale, bref, dans le baseball majeur, parce que les gens veulent l'avoir lancé. Tout le monde parle de lui. C'est le fun d'avoir ça. Ça me rappelle quand, je sais pas, moi, Fernando Valenzuela, est arrivé avec les Dodgers, puis s'il met à gagner un train d'enfer. C'est le fun de voir ça, c'est des espèces de prodiges, entre guillemets. Fait que Skeens, il y a eu un impact assez impressionnant sur le baseball depuis son arrivée dans les ligues majeures.
Je vais parler d'un autre sujet, oui, Serge, parce que mon espoir de voir Joey Votto avec les Blue Jays de Toronto, ben ça s'est terminé cette semaine. Joey Votto qui a annoncé sa retraite. Soit, ouais. Serge, il me semble que les Blue Jays auraient pu au moins lui demander, l'inviter pour un match, terminer sa carrière dans le baseball majeur au lieu de la terminer.
Absolument.
Dans le 3A.
Absolument. Moi, j'en viens pas. Là, ça. Je pense que les Jays ont manqué le bateau. Bon, on savait que c'était sa dernière saison. Il n'y avait pas une bonne saison des ligues mineures, mais ça, peu importe. Les Blue Jays non plus n'ont pas une grosse saison. Donc, c'était l'occasion, je pense, pour inviter Votto à, je sais pas, venir passer une semaine ou deux avec les Jays, terminer sa carrière en sol canadien. Faut rappeler que c'est un Canadien, puis un des rares Canadiens avoir connu une superbe carrière dans le baseball majeur. Je pense que ça aurait été la moindre des choses des Jays de l'inviter, de dire, écoute, là, on te donne une couple de semaines, on va finir ça en beauté, tu vas aller au bâton une fois de temps en temps. Au moins, il aurait pu terminer sa carrière au Canada et dans le baseball majeur au lieu de la terminer quelque part des mineurs. Je ne sais même pas ce que je vois. Puis je trouve ça...
Buffalo, je pense.
On manquait de bateau.
C'est-tu plate, Serge? Je pense que c'est à Buffalo. Y a-tu pire place pour finir sa carrière?
Ouais, c'est pour un gars qui a joué 17 saisons d'un majeur, venir à Buffalo, là, c'est pas trop le fun, ça, je peux te dire ça.
17...
Non, je trouve ça plate.
Ben oui, 17 saisons.
Ils l'ont échappé, celle-là.
17 saisons, Serge, 356 circuits, une fois joueur le plus utile dans la nationale, 6 fois dans le top 10, un gant doré, c'est toute une carrière pour le joueur de Toronto. Oui. Penses-tu qu'il y a sa place au Temple de la Renommée, à Cooperstown?
Bonne question, parce que là, on parle d'un joueur de premier but. Or, les joueurs de premier but, si tu regardes habituellement, c'est des gars qui frappent entre 400 et 500 circuits, des fois plus. C'est des gars qui font compter en carrière 12, 13, 14, 100 points. Tu sais, je te donne un exemple, Willie McCovey, Eddie Murray, Fred McGriff, Frank Thomas, Jim Thome. Quand tu regardes les statistiques de ces joueurs-là qui sont au Panthéon, c'est des statistiques plus impressionnantes que jouer Votto. Là. C'est vraiment autour de beaux chiffres, mais pour un premier but, est-ce suffisant? Il y a 1144 points produits. Est-ce suffisant pour être élu au Panthéon? Pas convaincu de ça.
Ben moi non plus, je pense que ça arriverait que je sois comme, ben ok, parfait, ça arriverait pas, je serais peut-être pas surpris non plus.
Exactement. Moi, je suis d'accord avec toi là-dessus. Il y a quand même une moyenne de 2,94, c'est très bon. Mais comme je te dis, faut que tu prennes ça position par position. C'est un rôle de premier but versus les premiers buts qui sont déjà au Panthéon. Ces chiffres ne se comparent pas à McCovey et compagnie.
Et je veux terminer, Serge, avec les fameux clubs. Parce que là, Jose Ramirez est devenu le 15e à avoir une deuxième, au moins deux saisons de 30 circuits, 30 buts volés, le club des 30-30. Ouais. Otani flirte avec le 40-40, puis tu nous as dit à plusieurs reprises, tu serais pas surpris qu'il fasse partie du 50-50. Et là, t'as Eli Cruz, qui est rentré dans un nouveau club, le club des 20-60, 20 circuits, 60 buts volés. Il me semble qu'il commence à avoir pas mal de clubs, Serge. Là.
Ben, pour dire que le baseball, ça invente un club par semaine. On va se calmer le pompon un peu, là. Tu sais, je veux dire, moi, les clubs, là, comme ça, là, que c'est 20-20, 30-30, 40-40 et peut-être 50-50 un jour. Et qui sait, 60-60, on ne sait jamais. Mais là, tu es rendu là, avec 20-60. Oh, c'est quoi ça? C'est 10-70, 25-80, on va venir fou avec ça. Fait que moi, j'ai limité ça, mes clubs préférés, là, c'est ça, 30-30, 40-40, 50-50, c'est parfait, mais là, arrêtez d'en rajouter, là, on dirait que le baseball, tu sais, le baseball a des statistiques, là, il en sort des vertes et des pas mûres, hein? Il en rajoute. T'as rien qu'à regarder le livre des statistiques dans le baseball majeur, ça n'a pas de mot du bon sens. Fait que, comme s'il n'y en avait pas assez, on en rajoute encore. Fait que, calmons-nous un peu, parce que c'est beau de la Cruz 20-60, 20-60. C'est une marque de pilule, ça.
sur le site de la MLB, Serge, là, tu peux trouver combien de coups sûrs un gars a frappé contre les lanceurs droitiers à partir de la huitième manche pour les matchs qui se sont disputés en soirée entre le 1er et le 3 juillet. Tu comprends? Donc,
C'est un petit peu charrié, là.
Ben oui.
Bien content, ben content pour de la grosse, là, mais ouais, arrêtez de le concentrer en tête avec ça.
Essayez de nous avoir un club à Montréal au lieu d'inventer des clubs de statistiques, hein?
Ouais, ça, c'est, ben, c'est un peu exagéré. C'est charrié un peu, là.
Hey Serge, ce fut un plaisir de te parler de baseball lors des trois dernières semaines. Merci beaucoup. Tu es toujours aussi pertinent, sympathique et drôle à parler baseball avec. Puis je te souhaite une belle fin d'été puis une belle saison, une belle fin de saison de baseball, mon Serge.
Hey, merci, Pat. À la prochaine, je l'espère.